Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre Santé, un trésor. Nous recevons aujourd'hui encore le docteur Philippe Rey qui a soutenu une thèse de doctorat en études occitanes en 2022. Bonjour à vous, docteur Rey, et bienvenue avec nous.
Nous, bonjour.
Nous allons évoquer avec vous Frédéric Mistral, ou, alors là vous me corrigerez, hein, Frédéric Mistral en provençal. Comment on dit Frédéric Mistral ?
Frédéric Mistral. Il y en a qui disent Mistral, il y en a qui disent, alors surtout pas Mistral, parce que Mistral c'est le vent.
Oui.
Mais Mistral, je trouve ça, bon, le L embête certaines personnes.
Alors, monsieur Mistral est un écrivain lexicographe français qui s'exprimait en occitan provençal, parce qu'il y a différents parlers occitans. Il est né le 8 septembre 1830 à Mayence, dans les Bouches-du-Rhône, et il y est mort le 25 mars 1914 dans la même ville. Frédéric Mistral en fut le capoulier, c'est-à-dire le chef, de 1876 à 1888. Lorsqu'il installe le muséum Art Latin dans le bâtiment actuel, il baptise celui-ci Palais du Félibre. Félibridge. Mistral est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages publiés en provençal, sa langue maternelle et en français. Ses œuvres sont traduites dans le monde entier. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'occitan provençal ?
Alors historiquement, soyons clairs, toutes les langues romanes sont issues du latin populaire, puisque les Romains, après avoir annexé les Gaules, ont eu à cœur d'installer des locuteurs pour que la langue, qui est une langue commune. Alors ça, c'était très intelligent. C'est un peu le débat d'aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, c'est le débat d'aujourd'hui de beaucoup de pays, oui.
Voilà, oui, tout à fait. Mais effectivement, un peuple, c'est d'abord une langue, alors. Donc, toutes les langues romanes ont été à la Louvre romaine. C'est-à-dire que, évidemment, il y avait des Visigoths, des Ostrogoths, des Burgondes, des Alamans, des gens très variés.
De multiples...
Et qui ont essayé, parce qu'aucun barbare n'a essayé d'imposer sa langue, mais tous ont essayé de parler ce latin populaire. Parce que le latin classique, c'était l'affaire des moines copistes et de la religion.
Oui.
Et en essayant, un Visigoth qui essayait de parler le latin populaire et un Alaman en Burgonde, forcément à l'arrivée, on n'avait pas le même son. Et c'est pour ça que ça a donné toutes ces langues romanes, dont le portugais, l'italien, le catalan, le roumain, l'italien, le français, hein, le français en tout cas chez nous, et puis tous les parlés de Languedoc.
Oui, oui.
Donc ça vient de... Il y a une seule langue à l'origine. Alors la bataille des mots, pour moi, c'est un complexe, c'est un combat d'arrière-garde. Moi, je veux...
C'est quoi la bataille des mots ?
Ben, par exemple, dire occitan, provençal, patine couffine.
Ah oui.
Alors, une fois qu'on sait d'où ça vient, après...
C'est bien parce que vous dites patine couffine avec l'accent, c'est bien.
Oui. Ben, vous savez, je fais plutôt des efforts pour trouver mon français que mon provençal.
Vous pensez en provençal?
Ah, complètement.
Vous rêvez en provençal?
Ah oui, oui, oui.
Alors, avec de belles couleurs, vous rêvez avec de belles couleurs.
Et puis, de jolis mots. Quand j'écris en français, je pense en provençal.
Bon, c'est bien.
Voilà. Donc ça, c'était à un moment donné, ça bascule. Et voilà, alors donc, le provençal suffit. On pourrait évoquer l'auvergnat, le limousin, le catalan, l'occitan, etc. Mais pour moi, occitan-provençal, ben, c'est simplement une redondance inutile.
C'est-à-dire, vous parlez provençal, moi, et la langue, provençal. C'est provençal.
Voilà. Après, bon, se disputer pour des mots...
Occitan, ça fait politique.
Ben, ça situe un débat, déjà. Et puis d'ailleurs bon, nous avons pu...
Et quand on dit qu'on parlait de la langue d'oc... C'était le provençal.
La langue d'oc, c'était la langue qui se parlait en dessous de la Loire, en fait, finalement. Il y avait la langue d'oil.
Oui, oui.
Hein, c'était la façon, comme Dante Alighieri l'avait dit, la façon de dire oui. Et lui, il a composé, il a inventé la langue de si, le toscan, avec beaucoup de mots provençaux, d'ailleurs, occitans, dedans.
Et ce qu'on appelle la langue d'oc, avec les problèmes politiques historiques, les cathares, je pense à notre ami Michel Jasse, etc., c'est quand même du provençal.
La langue d'oc, c'est chaque région a son parler.
Oui, le départ, c'est la langue romane, et ça peut être...
S'est appelée provençale, mais on n'a pas voulu assimiler à une région une langue, donc on a arrêté de l'appeler provençale, c'est devenu, il y a eu plusieurs noms. Mais aujourd'hui, c'est ce que les Occitans font, c'est-à-dire on dit, on est en Occitanie, on parle occitan. Bon, on parle le languedocien, on parle le gascon, on parle ce qu'on veut, on parle occitan, c'est très large. Moi, si on veut dire, je parle provençal, je parle occitan, ça ne me dérange pas du tout.
Oui.
Ça me dérange absolument pas, soit je parle occitan dans sa version provençale.
Oui, mais vous êtes un prêtre du provençal, donc on vous fera parler.
Oui,
du provençal.
Oui, parce que je suis né à Aix-en-Provence, c'est comme ça, je serais né à Montpellier, ben, j'aurais un autre avis, donc il ne faut pas non plus rester accroché à des choses un peu trop schématiques. Voilà donc pour l'origine de la langue. Et c'est vrai que maintenant, on commence à sortir un petit peu de ces combats, un peu arriérés, mais il y a toujours des gens quand même qui protègent leur pré carré.
Oui, c'est important. C'est ce qu'on appelle les traditions. Même si un patois local, les gens qui le parlent pensent qu'il est important, il faut le garder. Toute petite tradition est quand même une tradition de vie. Donc il faut garder.
Un problème d'identité.
Voilà, il faut garder les traces de vie. C'est mon avis.
Si étant provençal. Les autres acceptent que je garde mon identité provençale. Moi, je dois accepter qu'ils gardent leur identité.
C'est ce qu'on appelle le respect.
Voilà, c'est complètement normal.
Alors, Mistral est une figure de la langue et de la littérature provençale, et bien des hommes des hommages lui sont rendus en Provence et dans tous les territoires de langue occitane. Que s'étonne Mistral et de son rapport à la médecine? C'est ce qui nous intéresse dans notre émission.
D'abord, après la mort du dernier baroque, on va remonter à ces Pierre Goudouli à Toulouse en 1649. Louis XIII est mort depuis un moment et Louis XIV est sous la régence d'Anne d'Autriche, sa mère, il n'a que 5 ans. Et il s'apprêtait à installer le mouvement classique. Donc le mouvement classique, l'homme chef de la famille, l'honnêteté, le retour à la religion dans la famille, parce que les baroques, quand même, avaient quand même beaucoup été quand même épris de choses éphémères, etc. C'était un peu particulier. Donc, on rend hommage au chef du foyer. Et les idiomes régionaux, du coup, n'ont plus leur place. Donc, la langue, pendant 2 siècles, va être rendue à son autonomie. Et ça, il n'y a plus de littérature. Donc, la langue s'est abattardie et est devenue un patois.
Oui.
C'est là que la langue est devenue un patois. Donc pendant 2 siècles, la langue d'oc est privée de littérature. Résultat, bien, elle est réduite à un patois. Et quand Mistral arrive, il naquit en 1830, de nombreux auteurs s'étaient remis à écrire dans leur langue déjà à la fin du XVIIIe siècle. Alors encore plus au début du XIXe siècle. Mistral, qui n'était pas idiot, il a vu qu'il y avait une agitation. On appelait ça des initiatives individuelles. Mmh. Il y a eu 2 initiatives collectives avec le journal de Joseph Desana qui est paru de 1941-1946. Il y a eu Romanier qui a écrit un livre où il a invité du monde. Enfin bref, il y a eu des initiatives individuelles et collectives. C'est ce que Robert Laffont a appelé la renaissance de la langue inorganisée. Effectivement, Mistral a été le premier à réformer le provençal pour le rendre accessible à tous, parce que je peux vous dire que jusqu'au XVIIIe siècle, provençal ou langue d'Occitanie, c'était les mêmes langues.
Oui.
J'ai fait des recherches aux archives municipales d'Arles, donc au cœur de la Provence, parce que je devais écrire des textes qui n'étaient ni du provençal ni du langue d'Occitanie. Je devais choisir des textes neutres. Je devais les écrire en phonétique, sur plusieurs pages. Donc j'ai traduit 8 textes, qui étaient des testaments, des inventaires, écrits par des secrétaires de mairie, des notaires, donc des gens érudits. Eh bien, je retrouve la graphie occitane d'aujourd'hui. Il ne manque que le son, pour savoir, parce que le son est important en termes d'oralité. Mais c'est quand même assez troublant. Et mon professeur de dialectologie, quand j'ai ramené le devoir, il a été surpris de voir ça, j'ai appris ça. Il a été surpris. J'ai dit, pourtant, c'est les archives municipales d'Arles. Je ne suis pas allé chercher ailleurs les textes. Donc finalement, c'était les mêmes langues. Mistral a réformé la langue qui avait subsisté après 2 siècles d'autonomie pour en faire une langue accessible à tout le monde. Donc avec beaucoup de cohérence avec Joseph Roumanier d'ailleurs. Donc, pour ce qui est du rapport de Frédéric Mistral à la médecine, on ne sait pas grand-chose à tel point qu'on se demande s'il y a quelque chose à savoir. C'est-à-dire que quand on épluche les lettres de quelqu'un, je crois que c'est Chateaubriand qui a dit « pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses lettres ». Et c'est vrai que moi, avec Galtier, j'ai appris énormément, j'avais l'impression vraiment de le connaître.
Rappelez-nous qui était Galtier.
Alors Charles Galtier, c'est un écrivain, alors dramaturge, poète, ethnologue, qui est né en 1913 à Égalières, pas loin de nous, pas loin de Saint-Rémy, et qui est mort en 2004. Mmh. Donc il avait quasiment 15 jours pris, il allait avoir 90 ans. Et il n'est pas très bien connu, paradoxalement, en Provence. Et cette thèse, d'ailleurs, il faut vraiment que je l'imprime parce qu'elle est très attendue.
Il faut la publier, oui.
Oui, il faut que je la publie, mais il faut la corriger d'abord. Et là, le temps met un peu de manque. Oui, le temps met un peu de manque, c'est exactement l'outil mais des manques.
Oui, c'est en du provençal, transformé en français.
Et voyez, voilà. Et souvent, on provençalise, enfin, c'est doux à l'oreille. Alors, on a beau éplucher ces lettres, on ne trouve quasiment rien. Alors, il y en a un peu partout, des lettres à la Sécano, à Mayan.
Là, vous parlez de
du Mistral.
De Mistral.
Alors, on a beau éplucher ces lettres, on ne trouve rien. La seule chose dont témoigne Mistral à Roumanie, c'est un fait un peu amusant, il y a prescription, on peut le dire, parce qu'il n'hésitait pas. Parfois, il se confie à Roumanie, qui était devenu un ami, un confident.
Confident et, par lettre, quand même.
Oui, par lettre. On a la lettre où il dit qu'une nuit, il a rencontré une femme à Avignon et il est devenu un homme fait.
Ah, d'accord.
Pour la première fois de sa vie.
Tout le monde comprend, évidemment.
Voilà.
Et
voilà.
Moi non, mais tout le monde a compris. Oui.
Sans doute.
Même je suis médecin, donc je ne comprends pas trop.
Voilà, mais sinon, à part ça, bien... Rien, rien sur Mistral à la médecine.
Donc bon, il écrivait quand même des choses intimes, c'est quand même extrêmement... C'est
oui, mais ça a dû lui échapper au moment de...
Oui, ça a vous échapper avec le stylo, ça c'est...
Oui, ça a lui un peu échappé à Mistral, parce que sinon, non, il est assez... assez
il est prude.
Prude sur ce sujet, oui. Oui, tout à fait.
Heureusement, parce que sinon, ça serait...
Alors, comme chute à ce que... on pourrait mettre à ce qu'on a dit récemment, eh bien, est-ce que Mistral était un homme vigoureux quand même?
Oui.
Il a toujours été un homme vigoureux, plein de...
Ses études, qu'est-ce qu'il a fait comme études?
Alors, il a fait une licence de droit à la faculté d'Aix-en-Provence.
Oui, donc c'est juriste.
Il était censé devenir avocat.
Avocat, oui.
Et quand il a 21 ans, il rentre au mas paternel. Son père le reçoit et il lui dit « Bon, mon fils, on t'en a appris beaucoup plus que ce qu'on m'en a appris. Je te laisse libre de choisir ce que tu veux faire de ta vie. » Et Mistral a craigné un peu parce qu'il s'est dit « Si je ne fais pas avocat, mon père va...
Oui. »
va... Et finalement, il choisit de... Là, comme il dit, les yeux rivés vers les Alpilles, sur le seuil du mas paternel, je prends 3 résolutions. Et là, il fait le pari de rendre à la langue la flamme par la divine poésie, grâce à la divine poésie.
Et ce mas, il se trouve où?
Alors, le mas du juge, il est entre Saint-Rémy et Mayanne.
D'accord.
Quand on prend la route Saint-Rémy-Mayanne, on y passe devant. C'est une grande exploitation. Son père était un ménager, comme on dit, un exploitant agricole très, très riche.
Vous avez dit,
Un ménager.
Ménager.
Oui.
Vous le prononcez mieux que moi,
oui. Oui, mais enfin, voilà. Et donc... Oh, il n'a jamais trop usé ses souliers vernis dans les champs, mais il était très attaché au travail du champ, surtout pour ce qui est des glaneuses. D'ailleurs, quand il a écrit un premier livre qui a été édité qu'après sa mort, Les Olivades, et il dit qu'il a suivi les glaneuses dans les champs, celles qui ramassaient les gerbes de blé.
Ouais.
Alors Romani lui dit, Mistral, il a dit, j'ai fait un vrai travail d'œnologue soutenu. Alors Romani lui dit, Mistral, mon œil, bon, c'est très bien pourquoi vous alliez voir les glaneuses,
oui,
etc.
Vous nous présentez Mistral comme un coquin, quand même.
Ben, je ne dirais pas qu'il n'était pas coquin. Bon, il était beau gosse.
Il s'est marié.
Oh, très très tard.
Ah oui,
beaucoup
donc
plus
il
tard.
A pu être coquin.
Ah oui, il était très coquin. Mais il était beau gosse, il avait de l'argent, il avait une joie de vivre. Enfin bref, quand même, il avait tout ce qu'il fallait pour vivre une belle vie quoi, d'homme.
D'accord.
Après tout. Hein.
Donc ce qui explique peut-être qu'il n'avait pas besoin de médecins qui lui auraient rabattu sa
voilà.
joie de vivre.
Ils s'auto-entretenaient. Il auto-entretenait sa forme. Non, mais enfin, ceci étant, c'était quand même quelqu'un qui, à 21 ans, avait pris une résolution très sérieuse.
Oui, c'est important.
Ça, c'est assez épatant. Ce pari qu'il a fait, c'était Escoumès, de réveiller la langue.
Escoumès.
Et un pari, une gageure.
Une gageure. Très bien.
Une gageure. Et il a tenu parole, en plus. En plus, il était fidèle à la Provence. Enfin, on pourrait parler, alors Mistral, si on commence à parler Mistral, il faudrait...
Non, mais c'est Mistral et la médecine.
Oui, alors la médecine, justement, donc, comme je vous disais, ben, voilà, médicalement, on peut dire qu'il a traversé sa vie, je dirais, tranquillement, du point de vue de la médecine. Parce que c'est pas pareil pour le reste.
Oui, non, mais ça, on a bien compris. Oui.
Voilà, donc Mistral, ben, effectivement, il a été en bonne santé... jusqu'au bout, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, au moment de son décès, et les observations du docteur Terrasse, qu'il a ausculté après sa mort. Ouais,
d'accord, donc Mistral, par rapport, et dans ses écrits, dans sa littérature, est-ce qu'il parle des médecins, de la médecine?
Non.
C'est pas un sujet qui l'intéresse dans ses livres?
Non, c'était vraiment la poésie... La Provence, il chantait la Provence.
Il a fait de la musique, il a composé la musique, des chansons.
Non, il n'était pas musicien. C'est toujours quand il a écrit des textes, des chansons comme le chant de la coupe, il s'est inspiré d'une musique déjà faite.
Voilà, c'est lui
qui a composé les paroles du chant de la coupe.
D'accord.
Alors on dit, oui, la coupe sainte, elle n'avait rien de saint, la coupe finalement. Elle avait quelque chose de saint de par celui qui l'a ciselé, Louis-Guillaume Fulconis. Qui était un saint homme, un statuaire de génie qui mériterait même qu'on en parle, parce que ce qu'il a fait, c'est énorme, quoi. Puis une générosité sans fin, il se retrouve en Algérie à 17 ans, avec le pari, parce que c'est son grand-père qui a donné l'amour du ciseau et de la taille de pierre, et il a ciselé cette coupe.
Cette coupe, c'est une vraie coupe.
C'est une vraie coupe, on pourrait en parler, l'histoire de la coupe, là c'est pareil, il faudrait...
Oui, mais il faut que ça soit avec la médecine.
Oui, voilà, non, il n'y avait rien de médical dans tout ça. Et c'est vrai que Mistral a travaillé, a traversé sa vie tranquillement du point de vue de...
Bon, mais donc Mistral était en bonne santé, il n'a pas trop écrit sur la médecine, ça, mais il faut le dire parce que c'est important, qu'à l'époque, eh ben, ça devait être quand même relativement rare.
Oui.
Je vous propose une trêve musicale typiquement provençale avec la suite de Farandole pour galoubé, hautbois, trague, sax, baryton. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus. Sur 103.2 FM, nous recevons aujourd'hui Philippe Rey qui nous parle de Frédéric Mistral et la médecine. Et nous avons constaté qu'en fait, Frédéric Mistral, le Provençal, celui qui a remis la langue provençale au goût du jour et qui l'a structuré et fait bien connaître, était un homme en bonne santé, il parle peu de médecine dans son œuvre. Toutefois, Mistral ne souffrait-il pas d'arthrose, de rhumatisme, car il prenait les os à Gréoux-les-Bains?
Dire qu'il ne souffrait pas, je pense que comme tous les gens qui rentrent dans l'âge, parce que là on parlait de Mistral à 21 ans, etc., et c'est normal que la médecine ne l'ait pas atteint. Plus tard, il faudrait faire des recherches quand il a attrapé ses 60-70 ans.
Il est décédé à quel âge?
Il avait 84 ans.
Oui.
Il est mort en 14. Ouais, il est né en 1930. Âge, ouais. Oui. Et je ne dirais pas bêtement, parce qu'on meurt toujours bêtement. Mais enfin, vraiment par un concours de circonstances particulier qu'on peut évoquer. Alors pour les os, c'est vrai. C'est vrai que je pense que c'était plus pour une question de confort, de se promener, de revoir quelques amis, faire des rencontres, que par nécessité vitale. Hein.
Ah non, mais les sources, quand même, alors surtout à l'époque, je reprends ma casquette de médecin, avait vraiment une action thérapeutique. D'ailleurs, ça continue à perdurer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'un bien par rapport aux eaux thermales et aux cures thermales. Le problème, c'est le coût actuellement, que ça coûte cher et que c'est un problème économique, mais alors, il y a des choses qui sont, évidemment, toutes les eaux ne sont pas bonnes à prendre, mais il y en a qui sont vraiment au niveau dermatologique, au niveau ORL. Alors maintenant, les cures pour remise en forme, bon, ça c'est... Mais vraiment, les eaux ont quelque chose de bénéfique. Hein. Par exemple, quand les eaux souffraient, qui ont du soufre, ont vraiment une action. Donc à l'époque, c'était important parce que la thérapeutique était... Hein, on n'avait pas du tout la thérapeutique actuelle. Hein.
Oui,
les antibiotiques, tout ce qui est infectiologie, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est cancérologie, tout ça, etc., n'était absolument pas connu. Et on donnait des fortifiants, tout ça. Hein, maintenant, les fortifiants, c'est la médecine dite douce, hein, comme s'il y avait de la médecine amère. Mais, enfin, alors, à l'époque, c'était la médecine dure. Hein, oui. C'est-à-dire que les médecins donnaient fortifiants, etc. Et donc, les eaux étaient vraiment importantes. Et
puis, c'est décoratif, surtout.
Ah ben oui, parce que suivant les sources thermales, et on les connaît depuis longtemps, puisque les Romains eux-mêmes prenaient les eaux, quoi.
C'est des grands consommateurs d'eau.
D'eau thérapeutique. Mmh. Donc il y a un bien-être. Hein. Il y a une ritualisation aussi. Hein. Mais quand même, alors pas pour toutes les pathologies. Une fracture osseuse, il n'y a aucune cure qui vous la fera. Hein. Le traitement, c'est la chirurgie. Mais si vous avez un psoriasis, les cures font du bien. Si vous avez un problème ORL ou asthmatique, les cures font du bien.
Alors c'est vrai
donc
que
s'il a pris, s'il est allé quand même, il a fait la démarche. Alors bien que nous avons dit qu'il était coquin, donc c'est vrai que dans les sources,
oui,
dans les commandes, on s'ennuie. C'est pour ça qu'il y a des casinos, etc. À Vasles-les-Bains, il y a un casino, mais l'eau de Vasles-les-Bains est quand même importante. Alors je cite Vasles-les-Bains parce que c'est la dernière station où j'ai été. Et puis la chaleur de l'eau aussi, c'est-à-dire qu'il y a des eaux qui sortent chaudes, donc le chaud, on sait que ça fait du bien. Et donc ça, voilà. Donc s'il y allait, c'est quand même, c'est qu'il avait, consulté et que c'était dans un but thérapeutique.
Oui, parce que même si on n'a pas de preuves formelles, on imagine qu'en rentrant dans l'âge, ben, c'est un petit peu comme tout le monde, on ne va pas de mieux en mieux quand on rentre dans l'âge.
Mais donc, ça dépend de quel point de vue, quoi, je veux dire.
Voilà. Mais on n'en sait rien, il n'en fait pas état en tout cas. Voilà.
Lui, il n'en parle pas.
Il ne parle pas
de lui au niveau... Oui. Mais on peut penser que comme il est allé à Géoux-les-Bains, il avait peut-être des problèmes d'arthrose, qu'il a pris les os.
En tout cas, je peux vous dire que... Alors, il est allé deux fois.
La première
fois,
c'est beaucoup,
que Mistral se rendait régulièrement cure thermale, mais pas forcément à Gréoux. Il est allé aussi dans quelques années avant, dans une autre ville. Il avait fait un bon repas le soir, il avait inauguré une statue. Donc, on peut imaginer que le bénéfice.
Si vous avez un problème dermato, vous pouvez faire un bon repas, il n'y a pas de problème.
Oui, enfin bon, voilà, ça n'aide pas quand même.
Bon. Et on n'a pas retrouvé d'ordonnance de médecine pour lui.
Alors ça, non.
On n'a rien fait. C'est quelqu'un qui a une très bonne santé, à part deux séjours dans les eaux de cure.
Oui. Donc, c'est vrai qu'il avait fait, en 1890, il avait fait un séjour à Montmirail, station thermale voisine du petit village de Vaqueras.
Oui.
Alors, vous imaginez, Vaqueras, la référence n'est pas tellement l'eau à Vaqueras.
Non, je ne connais pas Vaqueras pour ces références dont vous parlez.
Vous voyez, c'est un, ils produisent un liquide qui accompagne fort bien un tourneau d'eau mourir, par exemple.
Ouais. Ah, c'est-à-dire
Du vin. Un vin vraiment succulent.
Ouais.
Succulent carrément, disons-le. Et le soir, justement, il a fait honneur avec ce repas. Oui. Mais il y avait de nombreux félibres, ils étaient au moins une cinquantaine à prendre les eaux.
Qu'à l'époque, comme je vous dis, c'était vraiment une démarche thérapeutique pour les gens riches, évidemment.
Tout à fait, oui.
Le journalier ne prenait pas les eaux, il prenait l'eau du puits. Mais pour les gens riches, il y avait un côté salon, mais il y avait un côté thérapeutique, parce que
tout
la médecine de l'époque, c'est comment on a la source Perrier, il y avait des eaux avec des caractéristiques particulières. Donc la chimie se mettait en place, et donc vous voyez ses propriétés. Donc bien souvent, c'était les pharmaciens, pas tellement les médecins, parce que les pharmaciens, parce qu'ils avaient la possibilité et la compétence de l'analyse de l'eau, et donc si vous étiez propriétaire d'une eau avec une qualité particulière, vous pouviez la vendre, quoi, donc c'était un revenu. C'est ce qui se passe à Perrier, quoi. Enfin, pas actuellement, mais c'est quand même une eau particulière, puisqu'elle est gazifiée naturellement.
Alors,
revenir au vin, il faut bien vous dire qu'à l'époque, par exemple, l'eau n'était pas l'eau qu'on boit du robinet actuellement. L'eau du robinet actuellement, et c'est la plus pure, à part les microplastiques et quelques... Bon, il y a des problèmes. Mais quand même, c'est la plus pure. À l'époque, l'eau était corrompue, donc on buvait du vin. Le principal préoccupation en 1914 d'acheminement, ce n'était pas les munitions, c'était le vin et les bœufs.
Oui.
Parce que les garçons buvaient beaucoup de vin, 2 litres.
Donc
on buvait beaucoup de vin.
Pour aller au front, il fallait avoir bu un coup.
Voilà. Oui, mais aussi pour boire, parce qu'on ne buvait pas d'eau. L'eau se corrompait facilement. Donc le vin était médical aussi. Il y avait des vins dits apéritifs. Mais le vin apéritif, c'était de la médecine. C'était pour donner d'appétit. Apéritif, c'est pour du répétit.
Oui.
Donc c'était un médicament. On prescrivait du vin apéritif.
Tout à fait.
Du vin, maintenant, c'est devenu un vin convivial, mais c'était médical.
Donc après Montmirail en 1890, il se rend à Gréoux en 1901 et 1902. Il rencontre le peintre manosquin Louis-Denis Valverane. Et en 1902 à Digne, c'est une ville qu'il découvre avec le célèbre peintre Paul Martin. Donc, il rencontrait ses amis, il avait vie mondaine pendant ses cures. Et Louis-Denis Valverane a laissé un texte savoureux sur le séjour de Mistral à Gréoux. Il dit « Mistral était venu se reposer à Gréoux, aux eaux bienfaisantes. Il était descendu au terme, dans l'oasis verdoyante qu'entourent les collines pelées. Sa démarche était encore juvénile quand il escaladait la montée du village jusqu'à la maison d'Angle, qui était la nôtre, près du croisement de la route de Manosque. Donc, il avait une certaine vivacité quand même. Aussi bien, la cure n'était-elle sans doute qu'un prétexte envers lui-même pour goûter pendant quelque temps le repos d'un calme séjour. » Il avait observé ça, quoi. Voilà. Et puis la ville de Gréoux-les-Bains a rendu quand même un double hommage à cet illustre curiste, quand même, puisqu'il y a une plaque qui a été posée au début du ce qu'on appelle le chemin neuf, en la baptisant de son nom, tout récemment. Voilà, c'est une plaque qu'on peut voir à Gréoux, que nous avons vue quand nous avons fait la Sainte-Estelle à Gréoux.
Très bien. Mais donc, alors, cet homme en bonne santé, hein, est quand même décédé, vous l'avez dit, à 83 ans.
Oui, 84. Et, oui,
alors, est-ce qu'on connaît les causes de ce décès?
Alors, en 1913, il avait une vie encore très dynamique, puisqu'il il a animé la Sainte-Estelle, qui est le colloque annuel du Félibrige. En 1913, il a animé ça. Il a reçu Raymond Poincaré, qui est venu le voir à Mayenne. Et l'année suivante, bien le mercredi 18 mars, Mistral sera à l'église de Mayenne, où la cloche allait être inaugurée. Et cette cloche, elle avait pour nom la Diane. Et elle a été inaugurée et Mistral avait oublié son chapeau pour protéger sa tête un peu grisonnante du froid, comme Mireille avait oublié le sien.
Ouais.
Elle est morte d'une insolation. Et lui, ben, ma foi... Et quand il est rentré dans l'église, quelqu'un l'a entendu dire « Ici, il ne fait pas chaud. Ici, il ne fait pas chaud ici. »
Oui, là, tout le monde comprend. Ouais.
Ouais. Et revenu chez lui... Ben à peine, Mistral confie à son épouse, mais Sarai Aganta, je me serai attrapé. C'est plutôt dans le mal qu'il a attrapé. Bon, hélas, ce n'était que trop vrai. Donc, le jeudi 19, il a un gros rhume qui l'empêche carrément d'assister à la bénédiction de la cloche pour laquelle il avait souscrit. Et l'après-midi, il reçoit du monde. Mais ce n'est que le dimanche que le docteur Terrasse le visite. Celui-ci le trouva au plus mal. Le lundi, la situation semble s'améliorer. Le docteur ne s'en étonna pas, vu la robuste constitution de son patient, dont tous les organes étaient aussi sains qu'ils peuvent l'être à l'âge de 30 ans.
Donc
le docteur Terrasse, qui l'avait ausculté, a dit qu'il a l'organe d'un homme de 30 ans. Donc il était robuste. Et il allait beaucoup mieux. Cependant, à 1h du matin, il a fallu faire venir le docteur, mais l'implacable avait fait son œuvre. Il était 1h30 de l'après-midi, pardon. Mistral succomba dans les bras de son épouse Marie. Donc il a attrapé un mauvais froid dans cette église, qui lui a été fatal.
Oui, moi, quand un patient me disait « Docteur, j'ai attrapé froid », j'ai dit « Il faut vite le relâcher
oui. ».
Hein, donc, le froid en médecine n'existe pas. Donc, un rhume, on peut penser à une grippe.
Une grippe, oui. C'est le diagnostic qui avait été...
Voilà, un syndrome viral.
D'ailleurs, en provençal, on ne dit pas « Aganta la frée », on dit « La frée ma Aganta ». C'est la maladie qui attrape la personne.
Oui, mais c'est ça. Oui.
C'est beaucoup plus objectif.
C'est plus moderne, quoi.
Et voilà, parce que pour attraper la maladie, il faut vraiment...
Mais j'ai attrapé un froid, ça c'était du quotidien.
Mais effectivement, sinon c'était un homme très robuste, plein de santé. Parce qu'en 1913, quand même, l'année avant sa mort, il était très vaillant encore pour vivre une Sainte-Estelle. C'était pas le tout repos, surtout qu'à Aix-en-Provence, il y avait un monde pas possible.
Bon.
Mais
merci beaucoup, Philippe, pour nous avoir instruit sur Mistral et sa bonne santé, en fait.
Oui, c'est ça.
Alors, merci beaucoup à vous. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de Mistral, des livres sur Mistral en bonne santé?
Alors, les livres sur Mistral, il y a toute son œuvre.
Oui, il faut lire l'œuvre de Mistral.
Parmi lesquelles son œuvre, je dirais, première et majeure qui a ouvert les portes du succès déjà à Paris, c'est Mireille.
Mireille
qui est un livre, qui était son premier poème, parce que tout était versifié.
Ah,
il a fait la prose, mais tous ses grands poèmes sont versifiés. Et le poème du Rhône, Les Iscles d'or, Nerte, enfin...
Il faut lire Mistral, quoi.
Il a 6 ou 7 livres, 6 ou 7 poèmes longs, qui sont assez édifiants, très beaux. Ce sont des pages d'histoire en même temps que des pages de poésie, c'est...
Eh bien, merci à vous, et merci de votre accent aussi. Je remercie Louis à la technique et Chanel Visuel. Je vous renouvelle mon annonce pour l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.